Bon week-end et bienvenue à ce panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Au sommaire de cette émission, les compagnies aériennes qui desservent les provinces de la RDC ont, après concertation, augmenté les prix de leurs billets d'avion. Plusieurs raisons sont évoquées, entre autres la certification des compagnies aériennes par l'autorité de l'aviation civile qui engendrait des frais supplémentaires. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a décidé lundi d'une mise en demeure des entreprises Airtel et Vodacom. Ces opérateurs connaissent, selon lui, une dégradation de la qualité des services offerts. Sit-in des veuves et orphelins des professeurs de l'UNIKIN devant le bâtiment administratif de cette université. C'était mercredi, cela fait une année que ces veuves et orphelins n'ont plus accès au salaire de leurs défunts mari et père. On en reparlera dans cette émission. Panorama économique à la présentation, Jocelyne Moussa-Opondé et Paul Matendo. Nous recevons pour commenter et analyser cette actualité, l'actualité de la semaine, Léon Bassango. Il est monétariste et député élu de Kisangani. Monsieur Bassango, bonjour.
Bonjour Madame Jocelyne.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, les compagnies aériennes opérant en RDC ont revu à la hausse les prix des billets d'avion pour les voyages domestiques depuis mercredi. À Kinshasa, à Mbujima, et cette hausse s'était déjà fait observer depuis mardi dernier. Quelles sont les raisons de cette augmentation? Paul Matendo nous donne des détails.
Les exploitants aériens affirment que le prix du billet dépend d'une compagnie à une autre, mais l'augmentation varie de 20 à 60 dollars américains, souligne-t-il. À la question de savoir le mobile de cette hausse des prix, ces opérateurs économiques disent se référer à un arrêté ministériel qui les autorise à réajuster les prix du billet par rapport à la dernière hausse du prix du carburant et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. D'autres sources par contre que nous avons contactées renseignent que l'augmentation des prix du billet est liée à la campagne des certifications des compagnies aériennes initiée par l'autorité de l'aviation civile. Cette certification exigée par les autorités du secteur, souligne nos sources, va entraîner des frais administratifs additifs qui seront endossés par les compagnies aériennes. Raison de plus pour ces opérateurs de récupérer ces frais par la vente des billets aux passagers, confirme nos sources.
Je rappelle que nous recevons pour commenter et analyser l'actualité économique de la semaine Monsieur Bassango Léon, monétariste et député national élu de Kisangani. Monsieur Bassango, vous avez suivi cet élément. Plusieurs raisons évoquées, entre autres la certification des compagnies aériennes par l'autorité de l'aviation civile qui, selon ces entreprises, entraînerait des frais additifs. Et est-ce que c'est toujours les passagers ou les clients ou les consommateurs congolais qui doivent prendre en charge tous ces genres de frais? La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le consommateur congolais n'est pas protégé.
Oui, madame, vous devez savoir que quand on fait les affaires, c'est le lucre. Les entreprises ou les compagnies aériennes doivent récupérer tout ce qu'ils doivent payer comme frais ou taxes. C'est tout à fait une réaction normale. Mais est-ce que ça s'est fait à la même proportion qu'elles ont à payer les taxes ou les frais? Ça, c'est encore une autre paire de manches.
Mmh. Mais est-ce qu'à un certain moment, est-ce que certains frais ne peuvent pas être pris en charge, je ne sais pas, par les compagnies ou l'État, c'est partagé, pour que finalement les consommateurs soient aussi protégés, parce que tout retombe sur lui?
Moi, je le dis à l'hémicycle, lors d'une plénière, que ce n'est pas vraiment acceptable qu'une nation et un gouvernement puissent vraiment avoir une politique du transport aérien sans que cette dernière, comme nation, puisse avoir une compagnie aérienne nationale. Mmh. Parce que l'État n'a pas comme mission de faire des bénéfices.
Et donc, l'État aussi doit mettre à la disposition de la population des moyens de transport.
Il faut une compagnie aérienne nationale.
Voilà, et on passe tout de suite au deuxième sujet de la semaine. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a décidé lundi d'une mise en demeure des entreprises Airtel et Vodacom.
Selon lui, ces opérateurs connaissent une dégradation avancée de la qualité des services offerts. Dans une conférence de presse, il a affirmé que le but de sa décision est d'amener les secteurs à être en règle avec les cahiers de charges en offrant un service performant et de qualité. La mise en demeure adressée à Vodacom et Airtel sera suivie d'une astreinte financière ou du retrait de la licence des concessions. Réagissant à cette menace du ministre, Airtel a indiqué que son équipe technique s'attelait déjà à remédier aux désagréments constatés sur son réseau. Cette société de téléphonie cellulaire a reconnu que les perturbations enregistrées étaient dues aux plusieurs facteurs inhérents au système des télécommunications.
Monsieur Bassango, un commentaire. Déjà, nous savons que ces perturbations sont souvent dues à des travaux de mise à niveau de ces réseaux de communication. Ne pensez-vous pas que ces entreprises doivent apporter leur innovation palier par palier, par exemple, pour ne pas perturber le service?
Madame, moi je vous dis que le ministre a raison, parce que ce n'est pas gratuit. Il paye ses services et que ses services soient de qualité. Moi je donne raison au ministre. Mais maintenant, il faut aussi voir l'autre aspect. Est-ce que il faut clairement dire à ces entreprises de télécommunications de cesser à travailler?
Voilà, il faudra peut-être établir des normes déjà connues que ces entreprises pourraient par exemple respecter.
Exactement. Les sociétés doivent se conformer à la loi, à la réglementation du pays.
Mais le problème des normes, voilà. Là, c'est encore un autre débat parce qu'il n'en existe presque pas.
D'abord, on ne peut pas travailler, faire les affaires au Congo sans se conformer à la réglementation ou aux lois du pays. Ça, c'est la première des choses. La seconde, il y a les normes internationales qui doivent aussi être appliquées en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces normes soient appliquées en République démocratique du Congo? Et nous devons écouter ces sociétés ou ces entreprises de télécommunications pour qu'elles nous disent ce que le gouvernement doit aussi en réciprocité d'après ce qu'ils ont comme difficulté.
Le troisième dossier, les veuves et orphelins des professeurs de l'université de Kinshasa ont observé un sit-in jeudi devant le bureau des ressources humaines de cette université.
Ces dépendants de professeurs décédés sont allés réclamer les salaires dus à leur mari et père qui ne touchent plus depuis une année. Selon Brigitte Kankonde, membre du comité des veuves et orphelins de l'UNIKIN, ils ne bénéficient plus ni de la prime allouée aux professeurs, ni au salaire de la fonction publique. Brigitte Kankonde au micro de Radio Capi.
Nos maris étaient des professeurs dans cette université ici. Nous sommes des veuves. Et comme nous sommes des veuves, il y a quand même quelque chose qu'on a prévu pour que nous puissions vivre avec ça régulièrement et chaque mois. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? À partir du mois de juillet, on ne nous a pas donné l'argent. Mois d'août, la même chose. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour nous rendre compte de la situation qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on nous a dit qu'il y a une démarche qui est en cours. On est en train de faire les démarches. On ne sait pas quand on va nous donner la solution à cette démarche.
Qui vous a dit ça?
Au service du personnel.
Le service du personnel fait la démarche à quel niveau?
Au niveau de notre ministère, au niveau même des ministères du budget. Nous réclamons qu'on puisse nous payer nos bases et les salaires des primes institutionnelles qu'on nous donnait par l'État. Parce que ici, nous sommes à la rentrée scolaire. Nos enfants ne savent pas aller à l'école. On ne sait pas nourrir nos enfants. On ne sait même pas payer la facture de la régie des eaux. On ne sait même pas payer les loyers. Et pourtant, nos maris ont rendu des services nobles dans ces pays.
Et le ministre du budget Trudeau a réagi par rapport à cette situation.
Oui, Jocelyne, le vice-premier ministre et ministre du budget, de son côté, affirme que le gouvernement a voulu bancariser dès le mois de juillet la paye de cette catégorie de personnes, mais il a été surpris de constater que le montant à payer avait triplé. Au lieu des 44 millions de francs congolais qui étaient payés habituellement, le ministère s'est vu dans l'obligation de payer 127 millions de francs congolais. Daniel Mukoko Samba affirme attendre des éclaircissements à ce sujet avant de procéder à la paix desserrante. On l'écoute.
Nous avons voulu, à partir du mois de juillet, bancariser la paye des rentiers, c'est-à-dire des veuves et orphelins. Ça veut donc dire que nous mettons fin à l'ancien système où nous envoyons une enveloppe à chaque institut, à l'université de Kinshasa, quitte à chaque université, à chaque institut, de payer ces catégories de personnes. Et jusqu'au mois de juin, pour ces catégories de l'enseignement supérieur universitaire de Kinshasa, nous payons par mois 44 millions de francs congolais. Maintenant, quand nous demandons aux instituts et aux universités de nous transmettre les listes des bénéficiaires pour que l'on ouvre des comptes bancaires et que nous payions directement dans ces comptes bancaires, on nous envoie des listes et quand nous calculons la somme qu'il nous faut payer, nous avons une somme de 127 millions de francs, soit une dépense additionnelle de 83 millions de francs. Donc, moi, en tant que ministre du budget, je veux comprendre pourquoi est-ce que jusque-là, nous payons par mois 44 millions et personne ne se plaignit, et maintenant que nous voulons payer les mêmes personnes, mais nous voulons le faire directement, on nous demande de payer 83 millions de plus. Parce que quand on passe de 44 millions à 127 millions, on a quand même triplé la paye.
Voilà, Léon Bassango, une réaction par rapport à ces sujets.
La réaction du ministre du budget et du premier ministre de la République démocratique du Congo est tout à fait légitime. Nous demandons au vice-premier ministre et ministre de budget, qui est professeur de l'université, d'inverser les choses. C'est-à-dire, la base dont on parle doit être une base réelle et qui doit servir à aider réellement les rentiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prime qui est au-dessus maintenant de la base salariale. Donc, et si on se limite seulement, parce que je sais qu'à un certain moment, ou même au moment où on doit payer le décompte final, on ne va pas prendre la prime. On va considérer la base salariale. En tout cas, je demande au professeur ministre de budget de voir comment on peut réellement soulager cette catégorie.
Puis, monsieur Léon Bassango, est-ce que vous ne trouvez pas que quand le ministre du budget dit qu'il attend des éclaircissements, mais entre-temps, cette catégorie de ce personnel passif est en train de souffrir, est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait plusieurs mois qu'ils attendent, mais jusque-là, il n'y a pas de suite? Est-ce que vous ne trouvez pas que le ministre devrait plutôt dire qu'il faut accélérer les enquêtes? Vous ne trouvez pas?
Exactement. Tel que je connais de loin, parce que je n'ai pas été en une séance de travail avec le vice-premier ministre du budget, je sais que il a vraiment en tête que cette investigation ou ces investigations ne doivent pas prendre beaucoup de temps. Parce que aujourd'hui, ce sont ces familles qui réclament. Demain, ça sera nos familles, parce que moi-même, je suis personnel scientifique de l'université de Kisangani.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine, le port international de Matadi se désengorge de jour en jour.
Avec près de 9500 containers, il y a de cela un mois aujourd'hui, la société commerciale des transports et des ports parle de moins de 5000 containers entreposés. C'est là les conséquences des mesures prises par le gouvernement, témoignent différents services opérant au port international de Matadi. Parmi ces mesures, notons l'évacuation d'office de marchandises après 18 jours et la radiation de certaines agences en douane incivique. Avec la réduction du nombre de containers au port de Matadi, il s'observe déjà une fluidité dans les échanges commerciaux et les recettes vont augmenter également. Le plus grand défi qui reste à ce jour, selon Kabea Makaya, un négociant en douane du Bas-Congo, c'est de lutter contre les tracasseries et les fraudes qui sont encore présents au port international de Matadi.
Au Kassai Oriental, la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC affirme avoir amélioré la qualité de ses services.
Près de 400 wagons ont été déchargés en gare de Mouni-Ditou pour le seul mois d'août dernier. Un record jamais atteint en temps de crise par cette entreprise ferroviaire. Ainsi, la SNCC demande-t-elle aux opérateurs économiques du Kassai Oriental de lui confier leurs marchandises à acheminer du Katanga à Mouni-Ditou.
Transport toujours, les trafics fluviaux des bateaux courriers à passagers ne pourront pas reprendre de sitôt entre Kinshasa et Kisangani comme c'était par le passé.
L'administrateur directeur général de la Société commerciale de transport et de port l'a dit lundi à Kisangani à la presse boyomaise. Selon Tito Umba, le port de Kisangani ne génère pas assez de recettes pour couvrir les dépenses que consomment des bateaux courriers. On l'écoute à ses propos au micro de Aliana Alipanangama.
Vous devez savoir que la politique que nous avions à l'époque, c'était de subventionner les transports passagers à travers les transports marchandises. Et là, en ce moment-là, nous avions les transports du cuivre, parce qu'on utilisait la voie nationale. Le cuivre partait d'Ilebo pour Matadi. Alors, on utilisait des bateaux, les trains pour arriver jusqu'au port maritime. Alors, ce trafic de cuivre donnait assez d'argent à l'entreprise et cet argent, donc la marge bénéficiaire, nous permettait de supporter les transports passagers qui, en principe, ne donnent presque rien. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un produit des transports qui fait que nous puissions compenser ces transports à passagers. Au moment où l'activité ne se retrouve que dans le Bas-Congo et les Bas-Congo supportent le reste de l'entreprise, il n'est pas souhaitable de réaliser une activité qui va encore gréver sur les petites recettes que nous avons. Raison pour laquelle, vous voyez, nous ne mettons pas ces unités en exploitation. Parce qu'aujourd'hui, si nous lançons un ITB, il faudrait que nous ayons de quoi est-ce que nous pourrions supporter le prix des revient de ces lancements d'unités. Or, nous n'avons pas quelque chose qui peut couvrir ces prix des revient. Ce qui fait que nous sommes en train d'étudier. Raison pour laquelle notre présence ici est de voir un peu comment améliorer le management du port de Kisangani, de façon qu'ils fassent des recettes et que nous ne puissions plus prendre en charge leur salaire, par exemple, ou bien leur fonctionnement. S'ils parviennent à s'auto-supporter, alors là, la direction générale pourra faire un effort, même à perte, en subventionnant ces trafics-là pour les besoins de la population. Nous pourrons, de temps en temps, lancer un ITB pour que ça vienne ici. Mais si le port de Kisangani ne se comporte pas responsable et qu'on continue à les supporter à partir de Kinshasa, alors là, ça ne va pas.
Léon Bassango, un commentaire sur l'une ou l'autre information. J'imagine que c'est la dernière hein, qui vous touche personnellement parce que vous êtes un élu de Kisangani.
L'ADG a raison. Aujourd'hui, ce n'est plus une entreprise publique, mais c'est une entreprise commerciale. Nous devons maintenant aussi voir dans quelle manière il faut relancer ces trafics fluviaux entre Kinshasa et Kisangani. Et nous devons voir l'impact à la population. Et c'est le moment maintenant de demander au gouvernement de pouvoir subventionner cette société commerciale.
Est-ce que, en tant que société commerciale, cette entreprise doit encore espérer une subvention de la part de l'État?
Tout à fait, tout à fait. On peut aller à l'allègement, par exemple.
Oui.
Certaines taxes. on peut utiliser des méthodes en sorte qu'on puisse faciliter cette société à pouvoir redémarrer, et lorsqu'elle va faire des bénéfices, elle pourra rembourser. C'est ce que moi j'appelle les subventions.
Monsieur Nio Basango, l'ADG dit que le port de Kisangani doit se comporter en responsable. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de gestion auprès des autorités locales?
D'abord, c'est aujourd'hui une société commerciale. On doit trouver une personne qui maîtrise le management, c'est-à-dire on doit investir pour gagner.
Donc les problèmes se trouvent aussi, entre autres, au niveau des managers de l'entreprise, selon
vous. Exactement.
Panorama économique, matière première.
Matière première à l'Équateur, le réseau Ressources Naturelles dénonce la fraude qu'opèrent certains industriels dans l'exploitation du bois.
À l'issue des enquêtes menées récemment sur terrain, plusieurs exploitants s'estiment défavorisés par les multiples taxes qui touchent les exploitants artisanaux. Et pour contourner le moratoire en vigueur qui interdit l'octroi des nouvelles concessions forestières en RDC, plusieurs se sont convertis en exploitants artisanaux aux grandes dames de la loi. Au cours de la conférence des presse tenue lundi dernier en Bandaka, le point focal du RRN Équateur, Julien Maté, recommande aux autorités de remettre de l'ordre pour mettre fin à cette fraude.
Voilà, Monsieur Léon Basango, la même situation est vécue en province orientale. Le ministre provincial de l'environnement de cette province le dénonçait lui aussi la semaine dernière. Il a parlé également de l'exportation de ces bois coupés artisanalement, alors que la loi l'interdit, l'exportation vers l'Ouganda et le Sud-Soudan. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ces désordres?
Eh bien, madame, c'est simple. Nous devons avoir du respect à nos lois, à la Constitution et aux règlements qui régissent notre pays. Et les contrevenants ne peut pas vraiment rester impuni. Donc je remets maintenant la balle ou je renvoie la balle au gouvernement. Si on constate qu'il y a des fraudeurs, qu'est-ce que le gouvernement a fait de ces gens?
Donc il faut mettre fin à l'impunité pour résoudre
voilà.
Ce problème.
Voilà, madame.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine concerne le système bancaire de la RDC qui est en pleine expansion. Il y a quelques mois, les sociétés de téléphonie mobile œuvrant en RDC ont mis en place un nouveau mécanisme de transactions financières connu sous le nom de Mobile Banking ou Mobile Money. Sur le terrain, comment fonctionne ce système et comment est-il perçu par la population? C'est un reportage signé Paul Matendo.
Pour la petite histoire, notons que la réglementation du système mobile banking a été mise en place en novembre 2011. Mais le premier agrément de la Banque centrale n'interviendra qu'au mois de mars de l'année 2012. Pour faire fonctionner le système, il suffit de se doter d'une carte SIM de la société de son choix et de se rendre dans un shop ou un point de vente des produits de cette entreprise pour ouvrir un compte bancaire sur son téléphone. C'est dans ce compte que l'abonné va loger son argent. Ainsi, l'abonné pourra envoyer ou recevoir de l'argent à partir de son téléphone et même effectuer des achats dans un point de vente quelconque. Jusque-là, ce système offre plusieurs avantages économiques, comme l'indiquent ses opérateurs de télécommunications.
Quand vous gardez l'argent sur votre portefeuille électronique, même si on vous vole le téléphone, vous ne perdez pas votre argent, vous perdez juste votre SIM et il suffit de faire une SIM blanche et vous récupérez votre argent. Autres avantages, c'est également la rapidité du transfert, il est immédiat. Très simplement, en moins de 20 secondes, vous pouvez envoyer et faire toutes vos opérations financières.
L'un de ses premiers avantages, c'est qu'il permet à ce que les gens s'échangent des produits et services à partir de la monnaie virtuelle. Ça évite beaucoup des circulations de la monnaie physique et cela a un très bon impact sur la stabilité monétaire.
Pour les articles qui ont un prix qui va au-delà des $500, les clients ne préfèrent pas effectuer les transactions par mobile banking. C'est le cas, par exemple, des maisons de vente de meubles ou des appareils électroménagers. Par contre, Airtel, Tigo, Vodacom, les trois principaux aux opérateurs de téléphonie mobile de la RDC font le mobile banking et les achats par téléphone non portable sont possibles dans plusieurs magasins et supermarchés de Kinshasa pour des articles de consommation courante. Témoignage d'un client.
Ça évolue très bien, il n'y a pas de tracasserie, encore moins de perturbations. Toutes les transactions, en tout cas, se font d'une manière normale. Surtout, je le fais au Kin Marché. C'est très bien. Chaque fois, chaque samedi, moi, j'ai fait mes paiements là-bas. Également, à GG Mart, je le fais toujours.
Pour la Banque Centrale du Congo, autorité des tutelles des services financiers, jusque-là, ce système fonctionne normalement. L'objectif de la Banque Centrale dans la mise en place du mobile banking est de faciliter l'accès de la population aux services financiers en RDC. C'est ce qu'affirme Willy Moudiaï, chargé du suivi des mobile banking à la Banque Centrale du Congo.
Il faut se rappeler que l'objectif de la mise en place de ce mécanisme, c'est qu'un plus grand nombre de personnes aient accès aux services financiers. D'après les premiers rapports que nous avons de ces opérateurs de téléphonie mobile, les choses évoluent plutôt dans le bon sens.
Il faut dire que jusqu'ici, le système mobile banking n'est opérationnel que pour des transactions locales et non internationales.
Léon Bassango, nous parlions tantôt de la bancarisation des professeurs et nous savons aussi que les fonctionnaires de Kinshasa ont été bancarisés. Une bancarisation qui jusque-là s'arrête que à la province de Kinshasa. La Banque Centrale, en mettant ces systèmes en place, espérait améliorer l'accès aux services bancaires. 20% des Congolais a accès au téléphone portable, alors que c'est 7% seulement qui a accès aux services bancaires. Vous êtes présentement à l'intérieur du pays, à Kisangani précisément. Est-ce que vous remarquez un engouement de la population au système mobile banking ?
Madame, au système mobile banking, c'est une bonne imagination. Il faut prendre le temps qu'il faut pour la vulgarisation et aussi pour des leçons pratiques à l'intérieur. Ce que je vous dis, c'est que dans un certain milieu ou dans des milieux reculés, on ne perçoit pas, on ne palpe pas ce que fait le mobile banking.
Mm-hmm.
Vous comprenez?
Oui.
Il faut qu'il y ait des leçons didactiques, même comme dit le pédagogique, de faire le pédagogue, pour que on puisse comprendre au fin fond de la RDC qu'il faut passer par ce système.
Oui.
Oui, la bancarisation. Mais qui doit bancariser? Qui doit avoir l'argent pour mettre en banque? C'est celui qui a quand même des moyens.
Des moyens alors que les Congolais n'ont pas assez de moyens.
C'est ce que nous voulons dire, qu'il y ait une politique d'abord gouvernementale sur le plan de l'emploi pour qu'on donne des moyens et aussi une politique salariale. S'il y a l'emploi, on voit maintenant comment il faut rémunérer ceux qui travaillent.
Oui.
Bah, c'est ce qui va aider à ce que l'économie vraiment puisse profiter au pays et aux citoyens du pays.
Voilà, c'est sur ces commentaires que prend fin à cette émission Panorama économique qui recevait Léon Bassango, Makiejo, monétariste et député national élu de Kisangani en province orientale, d'où il intervenait d'ailleurs. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous avec l'actualité économique déjà lundi à 18h15, heure de Kinshasa. Panorama économique, c'est samedi prochain à midi et demi, heure de Kinshasa. Bon week-end à vous tous.